Bonjour à tous, mardi 19 juin 2018. La vie est pleine de surprises, je vous quittais la semaine dernière en imaginant, en pensant être seul en ce mardi. Eh bien non, nous ne sommes même pas deux, ce n'est pas un duo, c'est bien un trio qui va commencer en fanfare cette émission. Bienvenue dans les voies de service, je suis en compagnie pour commencer de Jean-Charles Algan.
Bonjour
Jean-Charles.
De retour,
bonjour. De retour, comment allez-vous?
Très bien, merci.
De retour en un seul morceau de votre périple dans l'Ouest
absolument,
canadien.
Absolument.
Et nous avons également avec nous Yves-Olivier aujourd'hui. Bonjour Yves-Olivier.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Est-ce une première expérience à la radio?
Tout à fait.
Tout à fait. Bon, on va s'assurer que ça se passe bien, que vous ne repartiez pas trop traumatisé. Et nous avons plein de sujets, alors, dans plein de thématiques différentes. Qu'avez-vous à nous proposer, à nous servir aujourd'hui,
alors,
Jean-Charles?
Comme j'étais en voyage, je vais vous parler d'un problème important. Le burn-out du voyageur. Mmh. Ensuite, quoi de neuf avec les vins du Québec? Et puis, on peut aussi, si on a le temps, parler d'une auberge de jeunesse roulante.
Roulante, rien de moins, d'accord. De votre côté, Yves-Olivier, quel est le menu?
Alors, pour nous, de mon côté, c'est à trois saveurs. Donc,
d'accord.
Tout d'abord, un petit sujet international. On parle du Rwanda, qui tient à se développer au niveau du tourisme. Et donc, ça serait intéressant pour les Québécois d'en savoir un peu plus là-dessus.
Excellent.
C'est un petit pays d'Afrique de l'Est. Le prochain sujet, c'est sujet de société. On parle de polyamour. Donc, pour ceux ça intéresse, s'ils veulent des options sur la vie de couple. Puis, le troisième sujet, c'est au niveau de la santé. C'est la fin des antibiotiques et de ce médicament-là qui a fait fureur dans les années 80-90, mais maintenant tend à ne plus avoir l'impact qu'il avait par le passé. Merci.
Excellent, très bien. Pour ma part, comme d'habitude, des sujets un peu originaux, tendance assez asiatique, je dois reconnaître. Ce matin, nous parlerons notamment des nano-logements. Et oui, certains se plaignent peut-être de leurs 2,5-3,5 ici à Montréal. Eh bien, on peut faire plus petit, vous le verrez. Également des nounous professeurs robots, c'est les trois à la fois, ça se passe en Asie également. Et puis, comment ne pas parler de Trump, qui anime l'actualité toutes les semaines et continue à le faire? Eh bien là, nous parlerons du sommet qui a eu lieu. C'est de quelques instants. Ne bougez pas, c'est avec nous dans les voies de service. Le 1er juillet approche, peut-être allez-vous déménager comme nombre de Montréalais. Peut-être vous plaignez-vous d'avoir trouvé un appartement plus petit que le précédent. Eh bien, je vous donne des raisons de ne plus vous plaindre aujourd'hui. Partons à Hong Kong, les nano-logements, pour contrer la flambée des prix immobiliers. On appelle ces cubes des nano-logements. À Hong Kong, la flambée des prix immobiliers pousse les jeunes qui travaillent à vivre dans des espaces toujours plus petits ou dans des colocations d'un genre nouveau. Autant de solutions présentées comme le dernier cri en matière d'immobilier. Des immeubles de studios bourrés de gadgets ultra-modernes sortent de terre un peu partout dans l'ancienne colonie britannique. Les promoteurs vantent une certaine manière de vivre, une facture plus abordable, mais les prix restent astronomiques. Adrian Lowe, 25 ans, travaille dans la finance. Il a déboursé plus de 6 millions de dollars de Hong Kong, soit près de 100 000 dollars canadiens, il y a 2 ans pour un studio de 27 mètres carrés dans le quartier nouvellement bobo de Sai Yung Pun, dans l'ouest de l'île de Hong Kong. Chaque étage du mince édifice de verre compte 4 appartements, dont des nano-logements, comme sont désormais désignés les appartements de moins de 20 mètres carrés. Adrian Lowe maximise son espace avec des meubles modulables. Son lit de rabat contre le mur pour céder la place à un bureau et la plupart de ses affaires sont chez ses parents. Mais sa serrure, sa machine à laver, sa télévision sont activées par empreinte digitale et le jeune homme dit qu'il a tout ce dont il a besoin. Les promoteurs immobiliers vendent aux acheteurs le concept selon lequel ils n'ont besoin que d'un endroit pour dormir, que tout le reste peut être fait dehors, raconte-t-il à l'AFP. Il se nourrit essentiellement de plats à emporter, car sa cuisine est trop petite pour espérer pouvoir confectionner lui-même sa nourriture. Ses parents l'ont aidé pour le dépôt initial de 30% et il paye 24 000 $ de Hong Kong de mensualité, soit 4 000 $ canadiens, soit environ 40% de son salaire. Il y voit un investissement judicieux. On ne peut que gagner en étant propriétaire, en louant, on dépense tout son argent pour rien. L'immobilier hongkongais est le plus cher du monde. Le prix médian des logements est 19,4 fois supérieur au revenu moyen, soit le pire ratio de la planète, selon l'étude en 2018 réalisée par le cabinet spécialisé Demographia. Le coût de la pierre est nourri par l'afflux d'argent des riches investisseurs du continent chinois et des promoteurs immobiliers. Le gouvernement du territoire, revenu en 1997 dans le giron de la Chine, est accusé de ne rien faire pour contrôler la spirale. Plus de 60% des logements neufs de moins de 40 mètres carrés sont achetés par des investisseurs, selon les chiffres du gouvernement de la mégalopole de 7,4 millions d'habitants. Profitant de la loi hongkongaise qui ne prévoit aucun minimum pour la taille d'une habitation, les promoteurs tentent d'élargir le marché des acheteurs en réduisant les espaces. Ryan Hip, chercheur du cabinet Our Hong Kong Foundation, dénonce une tendance malsaine qui voit les promoteurs privilégier leurs bénéfices. Pour lui, la santé mentale et physique des gens va en pâtir. À la location, les prix sont également exorbitants et l'attente pour un logement social peut aller jusqu'à 5 ans. Selon M. Hip, la seule solution est d'augmenter les surfaces terrestres, y compris en gagnant sur la mer. Mais d'autres spécialistes de l'immobilier estiment que Hong Kong doit plutôt se servir d'anciens sites industriels ou de terrains publics. Le gouvernement étudie tout un éventail d'options entre îles artificielles et empiètements sur les parcs naturels chéris par les Hongkongais. Les concepteurs imaginent de transformer des conteneurs à bateaux en logements ou de créer des endroits à vivre dans des tuyaux en béton. En attendant, nombre de pauvres louent des appartements dits subdivisés, c'est-à-dire débités en espaces minuscules, insalubres. Mais même pour ceux qui ont besoin et qui ont de bons revenus plutôt, se loger n'est pas facile. Jeff, 29 ans, gagne 32 000 $ de Hong Kong par mois, soit près de 6 000 $ canadiens tout de même, comme enseignante. Elle a choisi d'habiter une nouvelle résidence conçue pour la location. Le week-end, elle rentre chez ses parents. Elle partage son logement avec 7 autres femmes. Sa chambre, petite, accueille un lit simple et un bureau. L'ensemble, appelé bibliothèque, occupe un immeuble résidentiel réhabilité dans le quartier populaire de Yeo Mai Tei. Le propriétaire y loue 166 lits disséminés dans 15 logements et les loyers varient entre 600 et 1 000 $ canadiens. Tous les locataires ont accès à des espaces communs, douches, cuisines, pièces dédiées à l'étude ou aux activités. Le propriétaire Kate Wong raconte qu'il s'agit de permettre aux jeunes d'accumuler de la richesse. Pour l'heure, c'est la solution idéale, poursuit cette dame. Je veux un appartement, mais pour le moment, je n'ai aucun moyen d'y parvenir. Même si j'ai un boulot stable avec un salaire qui augmente régulièrement, il ne rattrapera jamais les prix de l'immobilier.
Le burn-out du voyageur, ce sont des propos recueillis par Audrey Ruel-Manzon.
Rassurez-nous tout de suite, vous ne l'avez pas vécu.
Non. Je crois que si je l'avais eu, je serais peut-être revenu plus vite, en fait, tout simplement.
Ah, d'accord.
Mais moi, je ne suis pas parti pour une année, je suis juste parti quelques semaines. Et donc, c'est paru dans la presse. Kelly Nadeau est à Westport, en Nouvelle-Zélande, en août dernier. À l'aube de ses 29 ans, elle a mis le cap sur le monde pour une année complète, loin des plateaux de télévision où elle travaille, une aventure en apparence parfaite qui comporte aussi ses côtés plus sombres, confidence. Quand ça m'a frappé, j'étais à Chef Chuan, à mi-parcours de mon périple. Je me promenais dans les rues bleutées de cette petite ville du Maroc où je n'avais qu'une envie, me blottir dans un lit et dormir. Malgré les rayons de soleil qui me réchauffaient ma peau, cette journée-là, malgré les habitants attachants qui me lançaient des sourires sincères, je ne voulais que me reposer. Je suis entré à l'auberge de jeunesse. Je sentais mon ventre se crisper à la simple idée de devoir socialiser avec les voyageurs de mon dortoir. 3 semaines plus tôt, je réservais pourtant mon billet d'avion avec fébrilité. J'avais si hâte de mettre les pieds pour la première fois en Afrique. Et pourtant, maintenant que j'y étais, je ne souhaitais qu'une chose, être seul. J'avais honte. Je me disais que je n'avais aucune raison de me plaindre. Je réalisais mon plus grand rêve, parcourir le monde pour une année. Mais après 6 mois sur la route, j'étais tout simplement exténué. C'est quelque chose dont on n'ose pas parler, peut-être par honte, par peur d'être jugé par nos proches qui sont à la maison. Aussi, parce que nous avons une certaine incompréhension de ce qui nous arrive. Mais le burn-out du voyageur est réel. Et après en avoir parlé avec d'autres backpackers, j'ai constaté que c'est plus courant que je ne le croyais. Nous croyons naïvement être des super-humains, que nous allons visiter un pays par mois sans nous fatiguer, mais la vérité, c'est qu'être constamment en mouvement, défaire et refaire son sac tous les 3 jours, dormir entouré d'inconnus dans des dortoirs et échanger des banalités avec ceux-ci, ça fait son temps. Je savais que je n'étais pas prête à rentrer, que j'avais encore beaucoup de choses à vivre, mais que je devais ralentir. J'ai donc pris la décision de retourner en Nouvelle-Zélande avec mon visa vacances-travail. J'y étais allé en décembre dernier et j'avais particulièrement aimé Westport, une petite ville sur la côte ouest de l'île du Sud. Y retourner fut la meilleure décision. Cela m'a permis de revenir à l'essentiel, connecter avec les locaux et apprendre d'autres cultures. J'ai réalisé qu'il est important d'écouter son corps et son esprit en pareille situation, qu'une des beautés de partir sur la route pour plusieurs mois, c'est de prendre son temps et non pas de courir toutes les attractions que le Lonely Planet propose. En m'étant posé, je peux créer des liens profonds avec les gentils Kiwis et avec d'autres voyageurs qui sont restés accrochés à Westport, tout comme moi. Cela fait maintenant 2 mois que j'ai ma petite routine. J'habite dans une maison, j'ai une cuisine, un chien, 2 chats, et je vis au rythme des Néo-Zélandais. Ça me plaît. Maintenant, je me sens prête à reprendre la route. Prochain arrêt, retour au Sri Lanka. C'était le burn-out du voyageur.
Et c'est assez intéressant et je suis d'accord. Quand on voyage, je trouve qu'une des choses qui est fatigante assez rapidement, c'est de rencontrer plein de gens, ça c'est super, mais devoir re-raconter son parcours à soi rapidement, en quelques phrases, balayer d'où on vient, tout ça, et pas pouvoir rentrer dans les détails, c'est frustrant, je trouve.
Il y a chacun ses petites frustrations.
Ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. Dans la gare de nulle part, tu attends ton prochain départ. Où elle n'y sera pas celle que tu cherches et qui n'existe pas. Et qui n'existe pas. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la mort qui grimace. C'est la mort qui grimace. Sombre est ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. À travers la vitre embuée, tu vois le paysage qui défile. Les poteaux de téléphone et les fils, et enfin les champs de blé qui te prennent à rêver. Qui te prennent à rêver. Te rappelles-tu la table en fleurs? Ta mère et tes sœurs, ton père, ils sont des honneurs. Sombre est ta solitude de voyageur, comme tu pleures, pauvre déserteur. Et soudain tu sens la douleur, et soudain tu sens ton cœur. Ne te reste plus que quelques heures, voyageur. Bientôt tu meurs. Bientôt tu meurs. Après-demain comme avant-hier, tout retourne à la poussière. Et ne subsiste que le destin de tes passages dans les trains. De ton visage et du sien, de tes pas sur les chemins. Dors tranquille, ce n'est rien. Juste un voyage, juste un peu plus loin. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux, et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu vois la mort en face, c'est la vie qui grimace, et toujours le temps passe, quoi, corbeau qui passe dans les ciels, dis-moi, où sont les hirondelles, tu vois la mort en face, quoi, corbeau qui passe dans les ailes, dis-moi, où sont les hirondelles, tu deux étoiles. Quoi, corbeau qui passe dans les yeux de moi, où sont les hirondelles? Quoi, corbeau qui passe dans les ailes de moi, où sont les hirondelles? Nous, et toujours les séances.
De son album à Paradise City, c'était Jean Leloup et la pièce Voyageur.
Et je pense que nous allons continuer à voyager avec Yves-Olivier. Où nous emmenez-vous?
Opération Séduction au Rwanda. Le Rwanda veut se défaire de l'image associée au génocide de 1994 en misant en partie sur le tourisme. Safari et visite de plantations de café comptent parmi les initiatives pour attirer les voyageurs. La grande question est maintenant de savoir s'ils viendront au pays des mille collines. On est happé par l'Afrique des documentaires en pénétrant dans le parc de l'Akagera. Les fortes odeurs de diesel qui émanent souvent des routes rwandaises s'estompent et sont bien vite remplacées par celles de la forêt et des pâturages. Les oiseaux de proie, les babouins et les antilopes pullulent. Dans la savane apparaissent des buffles africains, des zèbres, des taupis, des girafes et même un phacochère qui déguerpit rapidement en apercevant le véhicule qui s'approche. D'autres espèces restent cependant invisibles aujourd'hui. Hormis les buffles sauvages, aucune trace des Big Five. Les lions, éléphants, rhinocéros et léopards qui cohabitent maintenant dans le parc restent tapis quelque part dans les hautes herbes ou la forêt. Le parc de l'Akagera revient de loin. Il faut savoir que les lions et les rhinocéros, exterminés au cours des dernières décennies, ont été réintroduits à coups de millions de dollars depuis 3 ans. Le parc compte maintenant 19 lions. Logiquement, ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines années. Même chose pour quelques rares rhinocéros. L'Akagera offre une concentration surprenante d'espèces et de reliefs sur un tout petit territoire. Le Rwanda veut maintenant en faire une destination touristique de choix pour les amateurs de safari du monde entier. Nous avons un petit pays à partir de Kigali. Les grands parcs sont tout facilement accessibles. On peut aller voir des gorilles, des montagnes au nord, dans le parc des volcans. Ici, à la Kagera, dans l'est, ce sont les Big Five et au sud, il y a le parc forestier de Nyungwe. Tout est facile. Cela nous est expliqué par Anakret Nsegimana, guide au parc à Kagera. Les ambitions touristiques du Rwanda ne font aucun doute. En plus d'être guide à la Kagera, Anakret Nsegimana enseigne aussi le tourisme dans une école à proximité. Il dit que le pays veut clairement et rapidement augmenter les revenus issus du tourisme afin de réinvestir dans son économie et son développement. Attirer les voyageurs est devenu une priorité, une ambition nationale qui saute aux yeux partout où on va. Au petit matin, à Gisenyi, au bord du lac Kivu, un concert d'oiseaux tire les dormeurs paresseux de leur sommeil. En sortant de la tente pour trouver les coupables, on aperçoit très vite la faune aviaire colorée qui s'élance d'arbre en arbre. Le moindre ornithologue amateur pourrait passer des heures à observer et à photographier ici. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui chantent. En tendant bien l'oreille, on peut entendre s'élever au loin la mélopée des pêcheurs qui rament sur l'immense plan d'eau après avoir remonté leur filet. Ils ramènent des isambaza, des petits poissons semblables à des sardines qui seront vendus très frais au marché et souvent frits tels que la journée même. Les Rwandais en raffolent et appellent cela du petit freitas ou de la petite friture. Le lac Kivu, lieu touristique en devenir, selon la québécoise Marie-Noël de Vito, qui a ouvert un refuge rustique sur les hauteurs du lac, l'Inzu Lodge. Elle est bien placée pour le savoir. Nous sommes face au lac, devant les collines du Rwanda et du Congo. C'est magnifique, il y a un énorme potentiel qui n'est pas encore très développé. Il n'y a pas encore beaucoup de sports nautiques, mais ça commence à arriver. Kayak, jet ski. Elle constate qu'il y a de plus en plus de touristes au fil des ans. Ici, au Lodge, il nous arrive maintenant de devoir refuser des réservations parce que toutes les tentes sont occupées. En ce moment, la plupart des gens viennent dormir à l'Inzu Lodge avant de traverser de l'autre côté de la frontière au Congo pour grimper le volcan Nyiragongo et y contempler son lac de lave en fusion. Certains s'arrêtent devant d'aller d'observer les gorilles. Aussi au Congo parce que cela coûte beaucoup moins cher qu'au Rwanda, où il faut débourser une fortune, soit 1 500 $ par personne par jour. Mais Marie-Noël de Vito pense qu'ils viendront de plus en plus pour le lac Kivu à l'avenir. Le Rwanda est aussi un pays sécuritaire. Les touristes sont de plus en plus nombreux à s'arrêter au Kalafia Café, à quelques centaines de mètres de la frontière congolaise. L'un des propriétaires, le Québécois Nathanaël Hollande, explique que le Rwanda se démène pour se défaire de l'image associée au génocide en misant notamment sur le tourisme. En Tanzanie voisin, le tourisme rapporte annuellement 2 milliards de dollars. Pour l'instant, l'Institut touristique du Rwanda ne rapporte que 300 millions. Il est possible de faire plus, c'est déjà en cours. Depuis 2 ou 3 ans, ici au café, on voit une augmentation de 10% de la clientèle chaque année. Les loyers commencent aussi à augmenter dans la région. Des gens achètent avant que les prix ne montent. C'est une question de temps avant que cela décolle. Comme pour lui donner raison, Will, un touriste anglais qui travaille au Mozambique et qui en est à sa 3e visite au Rwanda, est attablé dans la salle à manger du café. Il vient principalement voir sa belle-mère qui œuvre pour une organisation religieuse. Il apprécie beaucoup le pays et les efforts qui ont été faits au cours des dernières années. Ce pays a grandi, les infrastructures en général sont meilleures, il y a de plus en plus de routes. Les itinéraires qui prenaient une éternité sont maintenant une affaire de quelques heures, mais il y a aussi l'inforoute. Internet est partout. On voyage avec un modem 4G et on peut toujours le connecter. Il y a aussi plein de nouveaux hôtels à Kigali, la capitale. La sécurité est exemplaire. On y cite aussi donc la belle-mère de Will, le touriste, de 70 ans, qui conduit à Kigali sans aucun souci. Elle habite dans un immeuble sans mesure de sécurité particulière, autre qu'un jeune homme qui veille sur l'entrée la nuit. Nathanael Hollande pense par ailleurs que les amateurs de café pourraient bien se mettre à l'affluer dans le pays. Le café est le premier produit d'exportation du Rwanda. Il y a des plantations dans plusieurs régions et il est très facile de les visiter à partir de Kigali. C'est un avantage qui pourrait bien séduire les caféinomanes du monde entier. Adam McLean est originaire de Toronto. Il est directeur de Question Coffee à Kigali. L'entreprise d'économie sociale dit se concentrer sur la planète, les produits et le peuple. En clair, cela signifie que les profits sont réinvestis dans des métiers, des entreprises reliées au café, afin d'améliorer le produit au Rwanda. Lui et son équipe ont aussi des plans pour développer le volet touristique du café. Il dit « Nous voulons montrer ce qui fait un bon café du grain jusqu'à la tasse. Le café, c'est un peu comme le vin. C'est un produit qui pousse dans un arbre et que l'on cultive avec beaucoup de soin. On doit le transformer en enlevant le fruit pour ne retenir que les grains. Ces grains sont ensuite torréfiés, moulus, préparés et dégustés. Mais bien des amateurs de café ne connaissent que les grains torréfiés. Nous voulons reculer jusqu'au début, jusqu'à montrer les premières années d'un arbre à café. » On lui décoche parfois des regards dubitatifs quand il parle de café-tourisme. Il est néanmoins convaincu qu'il y a un bon potentiel pour ce type d'expérience. Il dit qu'il suffit de voir les visages des gens qui visitent les fermes et d'écouter leurs commentaires après coup pour comprendre qu'ils ne voient plus leur café de la même manière. Le Costa Rica fait d'ailleurs du café-tourisme depuis longtemps. C'est aussi le cas à Hawaï, en Colombie et en Jamaïque. Comme l'offre touristique est en train d'émerger ici, il faut trouver des façons de retenir les gens au pays pour plus que quelques jours. Une façon d'y arriver, c'est en diversifiant l'offre, notamment avec un volet agro-touristique. Pour l'instant, il s'agit d'un projet pilote qui ne se rend dans une seule coopérative de production. Des tas de coopératives partout au pays sont intéressées de participer à ce projet. On dirait que la salle à manger du Heaven Restaurant Hotel à Kigali a été reconstruite directement sur la canopée. Tout en hauteur, l'endroit est entouré de végétation luxuriante, l'air est pur, le service est attentionné et on y mange vraiment très bien tout en observant à travers les arbres les lumières de la capitale rwandaise en contrebas. On dirait presque une maison dans les arbres pour adultes fortunés. Les chambres du retreat, une portion plus luxueuse du complexe hôtelier, sont immaculées et accueillantes, dignes des plus beaux hôtels. Pas étonnant que l'actrice Scarlett Johansson y ait séjourné lors de son passage à Kigali. Ce matin, l'Américain Ryan Magarian donne une formation en mixologie. L'ancien copropriétaire de la marque de Gin Aviation est venu directement de Portland pour enseigner aux barman de l'endroit comment parfaire leurs boissons alcoolisées. On parle ici de micro-ajustements dans les préparations des cocktails, quand quelques millilitres de jus de fruits, de gingembre ou de lime de plus ou de moins peuvent faire toute la différence entre une boisson correcte et un produit irréprochable. Après avoir passé 3 semaines au Rwanda, il se dit convaincu que le meilleur est à venir. D'ici 10 ans, ce sera vraiment l'endroit où aller en Afrique pour les touristes américains et européens. C'est l'Afrique facile. Mon conseil, si vous voulez passer 10 jours sur le continent, venez ici. Avec l'Akagera, les gorilles, les forêts, les montagnes et les volcans, on se croirait à Narnia. Ce qu'il manque toutefois au Rwanda, c'est un bon marketing pour se faire valoir sur la scène internationale et changer les perceptions. Ce n'est pas l'impression, en tout cas, qui se dégage lorsqu'on est sur place. C'est propre, hyper sécuritaire. Il y a de bons cafés, restaurants, comme en Amérique, sauf que peu de gens le savent. L'importance de l'industrie du tourisme n'est pas négligeable, comme en témoigne Alissa Rixon, la propriétaire du Heaven Hotel Restaurant et du Retreat. Cette Américaine francophile, formée en santé publique, a œuvré dans son domaine pendant quelques mois avec son mari avant de décider de faire de l'aide autrement en ouvrant un hôtel-restaurant. Rien à voir avec une investisseur étranger qui cherche à faire fortune. Alissa est partie de presque rien et a contracté des prêts. Après 6 mois de travail humanitaire, je me suis rendu compte qu'il fallait faire travailler la population, surtout les jeunes, qui constituent une proportion très importante de la population. Reste maintenant à convaincre les gens de revenir, car sous le couvert de l'anonymat, bien des acteurs du milieu du tourisme vous diront qu'il y a encore trop peu de voyageurs qui s'aventurent au pays des mille collines.
Eh bien, espérons qu'il y en aura de plus en plus. Merci pour cette découverte à 360 degrés du Rwanda.
Que mangent les pilotes d'avion lorsqu'ils sont aux commandes ? C'est pas important, ça.
Ah, si,
Stéphanie Morin de la presse signe cet article. En général, pas le même repas que les passagers et jamais la même chose que le copilote, explique Sylvain Aubin, pilote et vice-président exploitation aérienne chez Air Transat. C'est important que les deux pilotes ne mangent pas le même repas pour éviter toute possibilité d'empoisonnement alimentaire. On ne peut pas risquer que les deux pilotes soient malades en même temps, surtout que les effets d'un empoisonnement sont très rapides. Si un plat est contaminé, ça n'est pas catastrophique, puisqu'il y a deux pilotes à bord. Catastrophique, c'est quand même relatif. Et il arrive qu'un pilote soit empoisonné de la sorte. Oui, mais très rarement. Si je considère les 10 dernières années chez Air Transat, j'ai trop de doigts dans une main pour compter le nombre de fois où c'est arrivé. Et nous effectuons quand même 22 000 segments de vol par année. Pour le reste, les membres d'équipage mangent en général des plats préparés spécialement par eux, par la même entreprise qui se charge des repas des passagers. Il faut comprendre que le choix du menu à bord est limité. Ça va pour un passager qui voyage occasionnellement, mais c'est autre chose pour un pilote ou un agent de bord qui vole 15 ou 16 jours par mois et qui aura le même choix mois après mois. Nous avons aussi 3 choix de plats, mais ils alternent plus souvent que ceux offerts aux passagers. C'est une question de fréquence. Et apporter un bon vieux lunch de la maison, les pilotes ne le font pas vraiment, c'est compliqué avec les restrictions de liquide à bord et les législations de différents pays où on attend.
Un mystère de résolu, on se retrouve après la pause pour plus de nouvelles.
Something's like a release from your eyes while those tears pass away.
On vient d'entendre le Montréalais Patrick Watson et sa pièce Love Songs for Robots.
For Robots, et oui, toujours les liaisons de Jean-Sébastien, les liens entre la musique et mes articles, car c'était effectivement du futur dont je vous parle, et le futur c'est maintenant. Un robot professeur qui garde les enfants, ça se passe à Shanghai. Il parle chinois et anglais, donne des petits cours de maths plaisantes et propose des jeux. Ce professeur idéal est un robot de la taille d'un enfant présenté récemment à Shanghai et conçu pour être un compagnon des tout-petits solitaires. Basé sur l'intelligence artificielle, iPal fait partie des robots éducatifs dévoilés cette semaine au Consumer Electronics Show, le CES, à Shanghai, grand messe de l'innovation technologique en Asie. Ou comme un enfant de 5 ans, iPal se déplace sur roues motrices, est doté de bras articulés et possède sur la poitrine un large écran tablette, tandis que ses yeux mobiles sont équipés d'une technologie de reconnaissance faciale. L'idée, c'est que ce robot devienne un compagnon pour les enfants, explique Tingyu Wang, cofondateur d'Avatar Mind Robot Technology, une start-up née il y a 4 ans et basée à Nankin, dans l'est de la Chine. Quand l'enfant voit notre robot, il le perçoit d'emblée comme un ami. Un autre enfant dans la famille, assure-t-il. Et de promettre, pour iPal, des fonctionnalités bien plus développées que les enceintes connectées commercialisées par l'américain Amazon ou les géants technologiques chinois Alibaba et Baidu. Un rien orwellien, ce robot blanc avec un liseré rose ou bleu au choix, peut notamment permettre aux parents à distance de parler avec leur enfant ou de le surveiller grâce à ses capteurs qui entendent des voix tout autour de lui. Pour de jeunes couples actifs, prendre soin de sa progéniture en bas âge peut s'avérer en Chine un insoluble défi. Certains enfants sont laissés à leurs grands-parents ou envoyés très jeunes au jardin d'enfants. Selon ses concepteurs, iPal peut offrir aux bambins un compagnon à l'écoute et familier, présent à la maison. Les Chinois sont très réceptifs aux nouvelles technologies. Les firmes promeuvent volontiers en Chine. Les assistants vocaux, les consommateurs sont déjà familiarisés avec le concept, commente Ati He, analyste du cabinet Canalys. Pékin a fait de l'intelligence artificielle l'une des priorités de son ambitieux plan de développement technologique Made in China 2025. Le premier robot humanoïde chinois capable de tenir une conversation simple a été dévoilé en 2017 au CES qui se tenait à Las Vegas, aux États-Unis. Au CES de Shanghai, à côté des technologies 5G ou de réalité virtuelle, des véhicules autonomes et des objets connectés, on a pu voir une douzaine de robots iPal alignés en 3 rangées et esquissant une danse au son de chansons populaires chinoises. Ils sont adorables, je pensais justement que cela plairait beaucoup à ma fille de 2 ans, sourit Mike Stone, un négociant australien admirant le numéro. Mais la performance a un coût, vous vous en doutez. Le prix d'un robot iPal avoisine 9000 yuan, soit environ 1 800 $ canadiens. Un modèle de luxe proposant un écran plus grand et une batterie de plus longue durée grimpe jusqu'à 2 700 $ canadiens. Après les enfants, les robots chinois pourraient aussi apporter des solutions à l'épineux problème de la dépendance. Dans un pays où les personnes âgées préfèrent traditionnellement rester chez elles et où les maisons de retraite sont en nombre encore insuffisant, malgré le vieillissement rapide de la population. Avatar Mind s'apprête ainsi à lancer un robot capable de parler avec des seniors, de leur rappeler de prendre leurs médicaments ou même de contacter l'hôpital s'ils font une chute à leur domicile. Pour autant, je ne pense pas que des robots peuvent remplacer des parents ou des professeurs, tempère M. Wang, mais iPal constitue un outil complémentaire pour alléger leur fardeau.
Quoi de neuf avec les vins du Québec? C'est Caroline Chagnon pour La Tribune qui a écrit cet article. Ce n'est plus vrai qu'il faut être fou pour planter de la vigne au Québec. La qualité des vins a considérablement augmenté depuis les dernières années. Ce progrès provient entre autres d'une épuration du domaine viticole. Pour les vignerons qui excellent, faire du vin, ce n'est pas juste un passe-temps ou une deuxième carrière. Ce sont des gens sérieux qui veulent en faire un métier. lance Louis Denoux, vice-président du Conseil des vins du Québec. Ces vignerons possèdent une connaissance pointue de la vigne grâce à un parcours riche en voyages et en formation à l'étranger. Chaque région viticole est confrontée à ses propres contraintes météorologiques. Aucune culture n'est parfaite, quelle qu'elle soit. Il suffit de regarder du côté de Bordeaux et Cognac, où de violents orages de grêle ont durement frappé les vignes dernièrement, pour réaliser que nos difficultés ne sont pas si pires que ça. S'il avait le choix de planter n'importe où dans le monde, Louis Denoux, aussi propriétaire du vignoble Sainte-Pétronide sur l'île d'Orléans, choisirait le Québec, sans hésitation. Il y a eu 5 jours de gel ce printemps et personne n'a perdu de vigne. Il suffit d'être bien préparé et bien équipé. Le Québec connaît actuellement un réchauffement climatique sévère, un levier qualitatif colossal pour la production de vin. En 10 ans à peine, les degrés jours, entre parenthèses, c'est la somme des températures moyennes journalières à partir de la base de 10 degrés entre le 1er avril et le 31 octobre. Donc les degrés jours ont fait un bond immense. Sur l'île d'Orléans, où nous sommes passés de 940 à 1140 degrés jour, une augmentation de 200 degrés jour. À ce rythme, il est à prévoir qu'en 2030, la température de l'île sera comparable à celle que connaît actuellement la Montérégie, raconte Louis. Le Québec possédera son appellation Indication géographique protégée, l'IGP, vin du Québec. Dès la prochaine vendange, il s'agit d'une première reconnaissance qui devrait être suivie d'un découpage en sous-région viticole. Des géologues se pencheront alors sur le Québec pour définir des régions viticoles liées à la géologie des sols et à des vrais terroirs. L'un des problèmes au Québec, c'est que les vignes sont souvent plantées au mauvais endroit. Avec une IGP, donc une indication géographique protégée, les sites seront d'abord examiné, puis approuvé par un agronome. On ne pourra plus planter partout, explique le vigneron de Sainte-Pétronille. Somme toute, bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, le meilleur est à venir pour nos vignerons. D'autant plus qu'il reste encore des terres vierges, archi-saines et pleines de minéraux. Selon lui, il ne serait pas surprenant que de gros joueurs y décèlent un potentiel et viennent s'installer, comme on a pu le constater en Argentine, en Californie, ou plus près de chez nous, en Colombie-Britannique, je confirme. Et je vais juste faire un ajout à cet article avec un petit texte de Alexandre Duval, paru dans la presse. Le dernier gros irritant réglé pour les vignerons du Québec, ce qui était considéré comme un frein important dans le développement de l'industrie vinicole québécoise, est chose du passé. Les vignerons pourront dorénavant produire leurs alcools en utilisant jusqu'à 50% de raisins achetés auprès d'un autre domaine québécois, ce qui signifie qu'ils vont faire des plus grosses productions et pouvoir vendre en plus grosses partout. C'était donc Quoi de neuf avec les vins du Québec.
Polyamour, aimer au pluriel. Le polyamour est une façon différente mais sérieuse de vivre les relations amoureuses. C'est aimer plusieurs personnes simultanément. Rencontre avec des polyamoureux qui démystifient leur mode de vie. C'est un texte de Maude Montembeau. Samuel, Anne-Marie et Élodie s'aiment depuis 1 an. Ils forment un trouple, qu'on appelle aussi une triade. Il s'agit d'une relation amoureuse consensuelle à 3. Ils sont polyamoureux et polyfidèles. Leur cercle est fermé. Leur histoire n'en était pas d'une d'amour à 3 au départ. Anne-Marie et Samuel étaient 2 colocataires avant de devenir amoureux, il y a 7 ans. Après quelques temps en couple, ils ont voulu trouver une licorne. Dans la mythologie, la licorne est un animal difficile à apercevoir et encore plus difficile à capturer. Pour eux, la licorne incarnait une jeune femme bisexuelle disponible pour une relation sérieuse. C'est un terme répandu chez les polyamoureux. Site web, forum, bouche à oreille, application mobile, le couple a multiplié les démarches pour trouver sa licorne sans succès. Ne fermant pas la porte à une éventuelle union à 3, Anne-Marie et Samuel se sont mariés. Deux ans après les noces, un hasard de la vie amène Anne-Marie à rencontrer Élodie, qui siégeait avec elle au conseil d'administration d'un organisme. Élodie s'est vite liée d'amitié avec le couple marié, puisqu'ils partagent une passion commune pour les jeux de rôle et les jeux vidéo. De fil en aiguille, elle développe des sentiments pour Samuel et Anne-Marie, et décide de rompre avec son copain de l'époque. Selon elle, « je n'imaginais pas avoir une relation comme ça. Ça s'est juste fait. Moi, j'aime dire qu'on est comme un triangle amoureux qui marche. » La chambre à coucher est la facette de la vie du trio amoureux qui suscite encore le plus de curiosité. Élodie explique qu'Anne-Marie, Samuel et elle se font poser les mêmes questions lorsqu'ils se dévoilent en tant que polyamoureux. « Dormez-vous dans le même lit ?»« Oui, un très grand lit. » »« Y a-t-il de la jalousie ?»« Non. » »« Avez-vous toujours des relations sexuelles à trois ?»« Si on a envie de faire ça à trois, allons-y. » »« Si on veut ça juste à deux personnes, c'est correct aussi. » »« Ou si quelqu'un veut le faire tout seul aussi, » ajoute rapidement Samuel. Bousculer le modèle traditionnel. Marie-France Goyer, candidate au doctorat en sexologie et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, a étudié le phénomène du polyamour. Aucune étude rigoureuse ne permet d'établir le nombre de polyamoureux au Québec et au Canada. Les seules recherches quantitatives sérieuses ont été menées aux États-Unis où cette tendance aurait pris naissance. Environ 4 ou 5% des gens seraient engagés dans une forme de relation non monogame consensuelle, précise-t-elle. Ça peut être des personnes qui pratiquent l'échangisme, ça peut être des gens en couple ouvert, ou des personnes en relation polyamoureuse. Assiste-t-on à une véritable explosion de polyamoureux ou sont-ils simplement plus nombreux à s'afficher? Le sentiment d'aimer plus d'une personne simultanément existe depuis la nuit des temps, explique la sexologue, mais ces dernières décennies, le terme polyamour est apparu pour le décrire. Selon ses recherches, la première apparition d'un mot « polyamour » s'est produite dans un roman américain de science-fiction des années 60. Ce ne serait cependant qu'à partir des années 90 qu'il s'est davantage répandu grâce à l'émergence de mouvements féministes et progressistes. Parmi les phénomènes expliquant l'émergence du polyamour, Marie-France Goyer relève justement la « détraditionnalisation » au profit de l'individualisation. C'est une espèce de changement de valeur, dit-elle. Des valeurs plus traditionnelles perdent du terrain et sont remplacées par des valeurs plus liées à l'actualisation de soi, dont plus liées aux besoins individuels. Selon Marie-France Goyer, la candidate au doctorat en sexologie et chargée de cours à l'UQAM, aujourd'hui, on va plus se questionner sur ce qu'on recherche, ce qui est bon pour nous, et voir s'il existe d'autres types de relations dans lesquelles on peut s'engager.
C'était la fin de l'article.
C'est la fin de l'article.
Parfait. Et c'était intéressant.
Merci.
À moins de vivre sur Mars, il ne vous aura pas échappé que deux présidents, celui de la Corée du Nord et des États-Unis, se sont rencontrés, ce qui a donné lieu à des soupçons sur un mini ventilateur USB. Les espions en herbe sont partout. En plein sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour, des experts en cybersécurité se sont inquiétés de voir qu'un mini ventilateur USB avait été offert aux journalistes accrédités. À l'occasion de la signature d'un accord de dénucléarisation de la Corée du Nord entre Donald Trump et Kim Jong-un, près de 3000 journalistes présents ont reçu un kit de rafraîchissement. Il faut dire qu'il faisait une chaleur étouffante. Le thermomètre affichait 32 degrés Celsius lors de cette poignée de main historique. Parmi les quelques cadeaux pris en photo par la journaliste de CNN Amanda Drury, un éventail orné de la tête de Kim Jong-un, une bouteille d'eau à l'effigie des deux dirigeants et un mini ventilateur USB. C'est ce dernier cadeau qui a immédiatement inquiété le journaliste du Washington Post, trois fois couronné du prix Pulitzer. Le journaliste à l'origine des révélations sur la surveillance de masse de la NSA, l'agence de renseignement américaine, s'est empressé de tweeter « Ne le branchez pas, ne le gardez pas, jetez-le dans une poubelle publique ou envoyez-le à un chercheur en sécurité. » Avant de préciser 2 heures plus tard « Peut-être que ce ventilateur n'est qu'un ventilateur, c'est un mauvais calcul, cela dit. » Je devrais sans doute ajouter, si vous l'avez branché, vous êtes humain. Les auteurs de logiciels malveillants abusent de l'instinct de confiance. Jusqu'à ce que quelqu'un de compétent jette un coup d'œil, je vous recommande d'éteindre votre machine si vous le pouvez et de changer les mots de passe avec un appareil propre. Comme le raconte Numérama, de nombreux journalistes ont hésité à se servir de l'objet. Ils craignaient qu'un logiciel malveillant américain ou nord-coréen soit caché dans la mini-prise USB pour pirater les smartphones des journalistes présents. Aucun élément à cette heure ne permet de confirmer le bien fondé de cette inquiétude, mais comme le rappelle BFM TV, ce n'est pas la première fois que cette technique est utilisée pour soutirer des informations à des fins d'espionnage. Lors du G20 de Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2013, des clés USB distribuées à des délégations auraient été infectées. Ces tentatives de piratage industriel ou de contre-espionnage se fondent sur un comportement que nous avons lorsque nous trouvons une clé USB dans un lieu public, la brancher pour identifier son propriétaire. Le HuffPost cite une étude menée en 2016 dans une université américaine par le spécialiste des questions de sécurité numérique de Google, Eli Burstein. 297 clés USB infectées par un virus avaient été abandonnées sur le campus pour cette expérience. 6 minutes plus tard, la première était déjà branchée. Méfiez-vous donc des ventilateurs.
Voyage, voyage, toujours. Une auberge de jeunesse roulante. C'est Samuel Larochelle dans La Presse qui nous a écrit cet article. Depuis un an, Lisette Abadi réfléchit à un concept d'autobus convertible et autosuffisant, capable de cueillir jusqu'à 8 personnes et de sillonner l'Europe. Le projet est surnommé Magic Bus, en référence à l'autobus transformable d'un dessin animé de son enfance et à l'autobus du film Into the Wild. Française et montréalaise d'adoption, la conceptrice souhaite que les voyageurs se rencontrent dans l'autobus qu'elle conduira elle-même durant les 2 premières années, comme ils le font dans les Youth Hostels à travers le monde. Les gens réserveront à la semaine, précise-t-elle. Le concept permettra d'échanger au maximum et d'apprendre à se connaître tout en ayant la spontanéité de choisir où aller selon leurs envies. Son slogan, Travel Back to Basics, il invite les globetrotters à s'offrir une parenthèse dans leur vie mouvementée et surconnectée. Il n'y aura pas de Wi-Fi dans le bus. L'expérience est purement basée sur le voyage et les rencontres humaines. Aidée de 7 collaborateurs, un juriste, 3 ingénieurs, une architecte et des spécialistes en commerce et en communication, elle vient de lancer une campagne de sociofinancement pour faire connaître le projet et tester l'intérêt qu'il pourrait susciter. J'aimerais tout financer par les commanditaires et le sociofinancement en vendant des places dans le bus. La conceptrice de Magic Bus souhaite que les voyageurs se rencontrent dans l'autobus qu'elle conduira elle-même durant les 2 premières années, selon la saison. Il en coûtera entre 720 $ et 1 000 $ pour une semaine de déplacement et d'hébergement. Si les rencontres entre inconnus seront privilégiées, les groupes pourront aussi réserver le Magic Bus. Aucune limite d'âge ne sera imposée, mais les participants devront vivre sans grand confort. Ce sera comme un dortoir dans lequel chacun aura son lit, qu'on pourra replier pour créer des sièges. Ça va ressembler à une vanne réaménagée et non à un bus de luxe. Il y aura tout de même une salle de bain et une cuisine. Je vise des personnes qui n'osent pas voyager seules, mais qui seraient prêtes à se joindre au bus en profitant d'un certain cadre et d'une liberté de prendre des décisions. Bien que sa créatrice soit établie à Montréal, le Magic Bus entreprendra son aventure en Europe en juin 2019. C'est plus facile de changer de pays et de culture rapidement en Europe, dit-elle. Et au Canada, en hiver, il faudrait une isolation énorme pour le bus. Avec le temps, elle espère qu'il y aura un Magic Bus par continent.
Demain, aurons-nous encore des antibiotiques? Les bactéries qui nous rendent malades résistent tous les jours davantage à nos remèdes. Certaines sont sur le point de devenir intraitables. Des médecins sont engagés dans une course contre la montre pour préserver ce qu'il reste d'antibiotiques efficaces en attendant que les chercheurs nous sortent de l'impasse. C'est un article de Bin Anvouvan de Découverte. À l'hôpital général juif de Montréal, dans le pavillon K, l'accès à un corridor est placardé de panneaux rouges. Un gardien de sécurité est posté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nul ne peut entrer ou sortir de cette unité de confinement sans respecter les consignes strictes d'hygiène. Les patients y sont isolés, les patients qui y sont isolés sont porteurs de bactéries qui ne doivent absolument pas se propager. Les mesures prises en place pour contrôler ces éclosions sont considérables. C'est la priorité du service de prévention des infections de notre hôpital, affirme le docteur Yves Lontin, le directeur de la prévention et du contrôle des infections. Depuis 7 ans, ce médecin mène une bataille contre de nouvelles venues au Canada, les entérobactéries productrices de carbamazepine, EPC. Elles sont très contagieuses, mais ce qui les rend préoccupantes, c'est que ce sont des bactéries extrêmement résistantes aux antibiotiques. Elles font partie de ce qu'on appelle les superbactéries. La plupart des porteurs d'EPC ne sont pas malades, mais lorsque ces bactéries pénètrent dans le sang, la vessie ou les poumons, elles peuvent causer des infections qui sont presque impossibles à guérir. Sur la quinzaine de familles d'antibiotiques dont on dispose, il ne nous reste parfois qu'un seul antibiotique qui fonctionne pour traiter ces infections, explique le docteur Lontin. Enfin, en fait, ces bactéries qui montrent une résistance ne sont pas tout à fait nouvelles. Ces entérobactéries font partie de la flore intestinale normale de tous. Certaines sont à l'origine des infections hospitalières communes. Le grand problème, c'est que depuis des décennies, ces bactéries mutent et deviennent progressivement plus résistantes. Les médecins ont vu dans les 30 dernières années l'essentiel de leur arsenal thérapeutique rendu inefficace contre ces infections. Ce qui m'inquiète, c'est que même dans notre pratique quotidienne, il est devenu difficile de traiter ces infections communes, s'inquiète Andrew Morris, directeur du programme de gestion des antimicrobiens à l'hôpital Mount Sinai à Toronto. Nous commençons à voir des patients atteints d'infections urinaires pour lesquels nous n'avons aucun antibiotique oral à offrir. Nous devons alors les traiter avec des antibiotiques intraveineux, ce qui aurait été impensable il y a quelques années à peine. Les EPC constituent la dernière variante de ces bactéries difficiles à combattre. Elles sont encore plus résistantes et s'en prennent au carbapénem, des antibiotiques d'ultime recours, jusqu'alors peu touchés par la résistance. Les premiers cas d'EPC ont été détectés en Caroline du Nord en 1996, mais c'est seulement dans les années 2000 qu'elles ont commencé à devenir inquiétantes, lorsqu'on en a trouvé en grande proportion dans les hôpitaux new-yorkais. Ceux-ci étaient alors reprisés avec des éclosions de bactéries multirésistantes. Les médecins n'ont pas eu d'autre choix que d'employer les carbapénem. Cette utilisation aurait créé un terreau favorable à la multiplication des bactéries résistantes au carbapénem. Cette souche a été disséminée par les voyageurs, particulièrement en Israël, avant d'atteindre l'hôpital général juif où a eu lieu la première éclosion d'importance au Canada. C'est naturel en considérant notre clientèle de voyageurs et notre connexion naturelle avec Israël, observe le docteur Lantin. Donc, pour conclure, la résistance aux antibiotiques, elle apparaît comme une bactérie qui s'adapte et devient résistante aux antibiotiques utilisés pour traiter les infections qu'elle cause.
Merci. Je reviens toujours avec l'alcool. Permis d'alcool. Québec assouplit les règles pour les restaurants. Il faut le savoir. Il est maintenant possible de siroter un verre de vin sur une terrasse avec ses enfants mineurs jusqu'à 22 heures. Après l'adoption cette semaine du projet de loi 170 par l'Assemblée nationale qui simplifie le régime de permis d'alcool. L'adoption du projet de loi permet aussi notamment la consommation d'alcool dans un restaurant sans commander le repas. Sans qu'on demande deux repas, la préparation à l'avance des consommations en prévision d'un fort achalandage et l'instauration d'un permis de livraison pour que des restaurateurs puissent non seulement livrer le repas, mais aussi les boissons alcoolisées qui figurent sur leur menu. Donc, important.
Important pour l'été.
Mm-hmm. À partir de quand ça sera en vigueur, ça?
Je pense que c'est dès à présent.
Demandez au serveur, ils sauront. Et il est déjà temps de conclure cette émission. Remerciements à vous, Jean-Sébastien Laliberté, pour la mise en onde et les choix musicaux, comme d'habitude, fidèles au poste. Remerciements également à Jean-Charles Algan, re-bienvenue parmi nous. Et remerciements et félicitations à Yves-Olivier, qui nous a accompagnés ce matin.
Pour cette première.
Peut-être avons-nous créé une vocation, nous verrons.
Et merci Louis de Bernice.
Avec plaisir. Vous retrouverez Jean-Charles la semaine prochaine, je ne serai pas là.
En solitaire,
mais
peut-être.
Les voix de service sont toujours là. Bonne semaine à tous, à mardi prochain.
À mardi.
Merci.